Proprement parler, n'est-ce pas d'atteindre philosophiquement les manières d'exister de l'être premier qui permet de faire une théologie scientifique plutôt que simplement atteindre son existence? Oui, je dis sagesse, les deux se tiennent. C'est atteindre l'exister qui me permet de parler des manières, vous voyez? Je prends la pointe, c'est à cause de ça, uniquement. Je ne peux pas parler des manières d'exister de l'être premier si je n'ai pas atteint son existence. Impossible. Donc, dites, une philosophie qui est une sagesse, qui atteint l'existence de l'être premier, qui, par le fait même, montre ses manières d'exister. Pouvez-vous préciser les niveaux où intervient la philosophie dans la démarche philosophique? Tout le temps. Les niveaux. On verra dans la diversité des philosophies, des théologies, différentes parties. J'aime mieux le voir à ce moment-là. Les auteurs sacrés n'ayant pas un langage philosophique, n'est-ce pas indispensable également d'avoir une connaissance historique des cultures, des langues qui sont présentées dans l'Écriture sainte pour comprendre vraiment le sens qu'ils veulent donner aux mots qu'ils emploient, et à partir de là se servir de la philosophie. Ça revient à ce qu'on disait hier. Que représente exactement le mystère de la parole de Dieu? Et si c'est nécessaire, alors saint Thomas ne connaissait pas l'hébreu. Est-ce qu'à partir de là, sa philosophie, sa théologie est fausse? Hier, je vous ai parlé de la question de la signification de la parole et la signification de la parole divine. C'est là où on touche le problème très très délicat de ça. Je vous ai dit, ce n'est pas une transsubstantiation. C'est une transsignification. C'est là le problème. Est-ce que la parole divine, en tant que parole divine, comprenez bien, est donnée premièrement aux croyants? Ou est-ce qu'elle est donnée à l'historien qui connaît le milieu historique, qui connaît la langue? C'est des problèmes. Il faut se les poser avec le plus netteté possible. Quand l'Église fait changer, traduire le latin en langue vulgaire, est-ce que l'Église demande à tous les croyants de connaître le latin? La langue vulgaire française, tout à fait étrangère. Alors, est-ce que quand vous parlez, lorsque vous recevez la parole de Dieu, est-ce que vous devez dire, cette parole m'a été donnée en araméen, ou en hébreu, en grec, en latin, maintenant en français? Que de chute! Alors, est-ce que je peux encore rejoindre la signification de la parole de Dieu? Ou est-ce qu'il y a des cloisons? C'est un très gros problème, ça. C'est le problème de votre foi. Qu'est-ce que c'est que votre foi? Est-ce que votre foi reste une connaissance historique? Ou est-ce que votre foi est une connaissance divine? Ça ne supprime pas tout ça. Mais je prends la pointe. Quand saint Thomas dit que la foi... Je l'appelle saint Thomas. C'est vrai, je l'appelle saint Thomas. Parce que je crois que là, dans la raison formelle de la foi n'est pas impliquée telle modalité de langue. Ce contact intérieur précis, ce qu'elle n'exclut absolument pas que la parole de Dieu a été donnée dans telle langue, dans tel milieu. Et c'est très important. Je ne supprime absolument pas les études historiques, archéologiques et exégétiques. Mais nous parlons de la théologie. C'est-à-dire, comment le théologien est-il théologien? À partir de quel moment? Et pour ça, je recours à la foi. Je regarde la foi, puisque la foi est première. Le théologien, c'est l'homme de la foi. Et c'est l'homme qui se sert de la foi pour atteindre Dieu. C'est pas le philosophe. Déjà, au point de vue philosophique, dois-je penser grec pour comprendre Aristote? C'est intéressant de se poser la question. Je vois des philologues, j'en ai connu à Fribourg, de très bons philologues de langue allemande. Ils sont particulièrement bons, les philologues de langue allemande. De très bons philologues de langue allemande qui ne comprenaient rien à la philosophie. Absolument rien. Mais c'est extraordinaire. Alors vous allez me dire que ces philologues comprennent mieux Aristote quand il dit ousia, quand il dit phusis, que quand quelqu'un qui connaît un peu le grec, mais pas du tout comme le philologue, qui oublie les accents. Donc il fait une hérésie. J'ai dialogué beaucoup avec lui. Je ne dis pas qu'on était amis, parce que on était tout le temps en lutte. Mais je lui ai dit un jour, vous regardez les thèses de philosophie. C'était pour défendre un étudiant que je faisais ça, c'était pas pour moi, c'était pour défendre. Parce qu'il a mis mal les accents. C'est une thèse de philosophie. Il met mal les accents en citant Aristote. Je dis, en effet, il aurait dû faire ça. Mais à cause de ça, vous baissez sa note. Eh bien, la fois prochaine que je verrai une thèse de philologie, et que je vois qu'il y a quelque chose qui n'est pas logique, je dirai, il ne peut pas avoir la bonne note. Qu'est-ce que vous diriez à ce moment? Alors, l'inconvénient, c'est que ce philologue n'avait jamais une seule thèse. Avec des mémoires de licence, jamais une thèse. Alors évidemment, il était jaloux de toutes les thèses. Comme il n'avait pas de thèse, il prêtait toutes les thèses. Ceux qui ont beaucoup de thèses ne regardent pas les thèses des autres, ils en ont assez déjà. Ils regardent que les thèses de leur matière. Alors à la fin, c'était pas pour moi, ça m'est égal, ne m'attaquez pas. Je m'aurais attaqué, j'aurais dit, oh, ça m'est égal, vous savez. Je sais bien que je peux oublier certains accents grecs. Oui, c'est le dilemme. Est-ce que l'intelligence est déterminée par la parole ou est-ce que l'intelligence est déterminée par la réalité? Tout le problème est là. Est-ce que ma connaissance philosophique relève des mots? Ou est-ce qu'elle relève de l'expérience? Ceci est la vache du temps d'Aristote, si vache il y avait, est la même que la vache d'aujourd'hui. Le petit crapaud du temps d'Aristote est-il le même que le petit crapaud d'aujourd'hui? Il a évolué. C'est le crapaud. L'homme du temps d'Aristote est-il le même qu'aujourd'hui? L'intelligence d'Aristote est-elle la même que la mienne? Oui, c'est le problème. La langue n'est pas la même. La langue est un instrument. Un moyen de communication. Il faut faire la philosophie des communications. la philosophie de la langue. Je suis tout à fait d'accord que c'est très intéressant. Et on remercie les philologues quand ils vous précisent certaines choses. Attention, ce mot, c'est très intéressant. Mais je dis toujours, le langage du philosophe, quand il fait la métaphysique, n'est pas le langage de la rue, n'est pas le langage du poète. Il a son langage. Il se forge sa langue. Qu'il peut se comprendre qu'en fonction de ce vers quoi, de ce qu'il veut dire. Le mot « on » étant ce qui est. Mais oui, c'est dans un verre. C'est intéressant de regarder dans un verre le sens de « on tem ». C'est intéressant. Mais quand Aristote prend « on » et « on », ce qui est en tant qu'être, là, il a un langage propre que seul le philosophe qui veut faire de la philosophie première comprend. J'ai vu des philologues, je vous cite ça parce que j'ai ce problème, je suis Aristote, je vais quand même un peu travailler, et ça m'a intéressé beaucoup. J'ai vu des philologues voir Phousikos, chez Aristote ça revient souvent, Phousikos ça veut dire naturellement, hein. Naturaliter, naturellement, Phousikos, ce qui est selon la nature. Le Phousikos, en politique, en éthique, en philosophie première, en philosophie de la nature, n'a pas le même sens. Et c'est le même mot. Alors, on fait des erreurs énormes à partir de là. Des erreurs énormes, parce que, de fait, les rapports de l'âme et du corps ne sont pas les mêmes si je suis en philosophie du vivant, si je suis en éthique. En éthique, Aristote dira que le corps est organe. En philosophie de la nature, il dit le corps et co-principe substantiel. Oui. Alors, faisons attention, le langage n'est pas voulu pour lui-même. Et c'est comme exactement un peu. Vous savez, il y a des musées comme ça. Et moi, je pense toujours à ça, parce que là, c'est très, très. On comprend tout de suite. Hein. On comprend tout de suite. Quand vous voyez un musée d'antiquité, des cruches, la cruche de la Samaritaine, on la met en vitrine. La cruche de la Samaritaine. Et la Samaritaine, elle l'a oubliée. Parce qu'elle est bête. C'est si précieux. La cruche de la Samaritaine, vous voyez ça. C'est quand même très très important. Bon, la cruche, pour celui qui s'en sert, c'est un outil. Bon, il la perd, c'est embêtant. Mais ça va, ça peut changer. Une cruche en vitrine, il ne reste plus qu'une. On la perd. Effrayant. Cette cruche a pris une valeur folle depuis qu'il n'y en a plus qu'une. Parce que c'est le vieil adage, c'est « et cher ce qui est rare ». C'est ce que j'ai dit au pape la première fois qu'il m'a invité à prendre le petit déjeuner avec lui. Il m'a dit « vous venez prendre notre petit déjeuner ». Très heureux. Vous ne vous le prenez pas avec vos frères. Je dis très sympère. Ce qui est rare a beaucoup de valeur. Alors il s'est mis à éclater de rire. Parce qu'il se rappelait, point de vue logique, ce qui est rare a beaucoup de valeur. Avec les frères, c'est tous les jours. Avec vous. Et c'est très intéressant parce que la valeur est donnée en fonction, tout simplement, de la quantité. C'est pas vrai du tout, hein, ça. C'est comme raisonnement. C'est tout à fait faux, tout le monde en rit. Et on a raison d'en rire. Et Saint-Père en a ri, parce qu'il a compris ce que je voulais dire. Mais les philologues retirent les mots de tout contexte et le mettent en vitrine. C'est ça, thématiser, aujourd'hui. On met en vitrine. On oublie ce que c'est que mettre en vitrine. En mettre en vitrine, c'est trans-signification. Et on croit saisir la vraie signification. On a complètement oublié tout ce qu'on faisait comme abstraction. Et c'est constamment comme ça. Alors on est... Vous voyez, c'est là où le philosophe doit revenir tout le temps à la réalité. C'est pour ça, je suis tout à fait d'accord que c'est très important, mais la foi, elle m'est donnée pour que j'ai une connaissance réaliste de Dieu. Je ne m'arrête pas aux mots. Ma foi ne s'arrête pas aux mots, elle s'arrête au mystère. Et elle entre dans le mystère. Et les mots sont véhicule de la pensée, son moyen, métaxu, intermédiaire, relatif, sont pas l'absolu. Et lorsque vous thématisez un mot, vous lui donnez toute sa valeur, vous le mettez sous vitrine. C'est-à-dire, vous le sortez de son contexte historique, vous le sortez de son... C'est très intéressant, parce qu'on souligne, on peut souligner les époques. Quand je vois une cruche, on voit tout de suite l'époque. On mettrait la cruche sans mettre l'époque, ça n'irait pas. Ça pourrait être la dernière qui sort du four, ça n'intéresserait pas du tout. Alors vous voyez, c'est ça qu'il faut comprendre, et auquel il faut tout le temps revenir là, et c'est tout l'effort philosophique ça. Le philosophe rappelle que le langage est un intermédiaire. Ce qui est intéressant, c'est de savoir ce que je saisis par ce langage. Je peux être en contact et en communion avec Aristote si, me servant de son langage, je saisis la même réalité que lui. Mais c'est la même réalité. Le mot, je sais très bien, je ne sais pas quel est l'accent grec qu'avait Aristote quand il parlait grec. On a essayé de... Ça change. Et sans doute que j'entendrai Aristote dire Brodos, je ne comprendrai rien du tout. Il devait avoir une voix très spéciale, et puis l'accent était particulier, était quelque chose de spécial. Mais je sais ce que c'est. La voix, la route, le chemin. C'est là où il faut relativiser ce que disent les philologues. Non. Pour revenir à quelque chose de réel. La philologie est une science, c'est très bien, elle est abstraite, forcément. Et le philosophe essaie de revenir à la réalité. Autrement, j'aboutirai à ce que dit saint Thomas, il n'y a pas de discussion philosophique au niveau des mots. La discussion philosophique est au niveau de la réalité. Alors transposez ça par rapport à la parole de Dieu. La foi est une connaissance réaliste. Par rapport à Dieu. C'est Dieu qui m'intéresse. Ce n'est pas ce que les hommes ont dit de Dieu. Ça m'intéresse aussi, ça. L'histoire des religions, ça m'intéresse aussi. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse en premier lieu. Ce qui m'intéresse en premier lieu, c'est le mystère de Dieu qui m'est donné. Vous voyez, la foi est la substance des choses qu'on espère. Ah. Tout de suite. Ça me donne, comme, si vous voulez, quelque chose qui anticipe l'hypostasis. Ça me met en contact avec le réel. La foi est une connaissance réaliste, sans abstraction. Puisqu'elle est divine, il n'y a pas d'abstraction en Dieu. Il y a un réalisme divin qui est extraordinaire. Alors, il ne faut pas tomber, vous voyez, dans le fondamentalisme qui consiste à transposer le réalisme de la réalité sur les mots. Les mots restent relatifs. Et donc c'est intéressant cette étude philologique, c'est intéressant l'étude historique, c'est intéressant l'étude archéologique, c'est bien évident. Et c'est merveilleux, il vous rappelle des choses que quelquefois on risque de ne pas voir. Mais je parle ici de la signification des mots. a une signification. La signification du mot, c'est capital. La signification du mot ou du verbe, peu importe, hein, le mot, un nom, hein, le verbe est un mot. Puis il y a des noms. Il y a toute l'analyse grammaticale. Bon, le mot, la signification du mot, qu'est-ce qui possède la signification du mot? Celui qui parle. Donc celui qui parle. Celui qui dit. Il énonce ce mot. C'est lui qui a pensé cette signification. C'est pour ça qu'il a pris tel mot. Il a choisi ce mot. Donc, la pensée. Le mot, par sa signification, renvoie à la pensée. Par sa signification. Et la pensée renvoie au réel. La réalité. Donc, la signification du mot renvoie à la pensée et la pensée à la réalité. Alors, vous comprenez, le mot choisi en fonction de telle langue, c'est sûr. Il a choisi tel mot en fonction de telle langue. Et cette langue, elle est le reflet d'une civilisation. Elle est le fruit d'une civilisation. Et elle dépend de la civilisation. C'est l'avantage d'avoir des mots, d'avoir la parole. La parole est vivante. Ça, c'est sûr. Et la signification de la parole est vivante. Mais elle dépend aussi du contexte, du milieu, de la culture. Le langage, il y a des langages comme ça de certaines personnes qui sortent de certains milieux, qui a un langage d'une grande, d'un réalisme affolant. Et vous voyez tout de suite d'où ça sort. Pas étonnant, ça sort de l'abattoir. Ils envoient réalisme, réalisme des chirurgiens, réalisme des étudiants de médecine, parce que ils ont un plaisir d'employer le langage le plus sort du contexte. Quand ils sont médecins après, c'est très différent. C'est intéressant de voir ça. On voit tout le milieu, et ça reflète ça. Mais, vous voyez, je prends exprès cet exemple, l'étudiant qui entre dans un milieu médical, plus dépendant de son milieu qu'un bon qui fait la médecine depuis 50 ans. Il a son langage à lui. Il est sorti du milieu. Un Aristote qui pense, je prends exprès Aristote, ou un Platon qui pense, est moins dépendant de son milieu que si vous preniez, je ne sais pas moi, des anecdotes tout simplement de personnes du temps d'Aristote. Il a créé son langage. Il a créé son monde. C'est exactement ce qu'on dit. Un chêne crée un climat. Tandis que une asperge, non. Tandis que le chêne crée son climat. Un géant, au point de vue de la poésie, crée son climat. Claudel, il crée son climat. C'est pour ça que c'est si difficile de traduire Claudel en allemand. Il fallait le père Urs Balthasar pour traduire Claudel en allemand. Il fallait quelqu'un de génial comme lui, point de vue poétique. Parce qu'il faut recréer. Et vous jugez Claudel avec le type qui sort en même temps que Claudel. Vous avez redécouvert un document historique, des lettres de l'ouvrier du coin. On a gardé son langage. On va expliquer Claudel en fonction de l'ouvrier du coin. Ils sont contemporains. C'est le même milieu. C'était toujours l'exemple que je prenais aux Aulgeois. Il y avait un spécialiste, je le nomme pas, il y avait un spécialiste de la sexualité des araignées. Il était très fort, très très fort. Il avait une bibliothèque sur la spécialité de la sexualité des araignées. Bon. Comme le sochoir était bâti tout près de la Seine, tout s'effondre. On ne redécouvre qu'une seule cellule, qu'un seul rayon, que 10 bouquins de la sexualité des araignées. Des moines spécialistes de la sexualité des araignées. Tous étaient là, on a découvert. C'est le seul livre qu'on a découvert. Vous voyez l'abstraction. On voit très bien. Je dis, mais il faut quand même comprendre ces choses-là. Il y a une relativité de la parole qui est très extraordinaire. Qui est merveilleuse du reste. Parce que ça prouve qu'on est vivant. Il y a une relativité de la parole. Alors quand on construit toute une thèse sur un mot, en fonction. Écoutez, non. Attention. La foi, ma foi est la même que celle d'Abraham. Substantiellement la même. La même que celle de Marie. Substantiellement la même. La même que celui de mes parents. Substantiellement la même. C'est là l'unité. Au niveau de la foi. Qui fait toucher la réalité divine. La réalité humaine, ça change. L'homme, ça change. Les animaux, ça change moins. Et Dieu ne change pas du tout. C'est pour ça qu'il a créé des animaux, pour qu'on voit quelque chose qui ne change pas. Vous voyez, ça demeure. Il y a quelque chose qui demeure. Je crois que l'araignée n'a pas changé beaucoup du temps d'Aristote. Tandis que l'homme a changé pas mal. Le petit potier d'Aristote, ça a changé. Surtout le coiffeur. Le coiffeur d'Aristote, très différent du coiffeur d'aujourd'hui. Ça, c'est... Alors, c'est pour qu'on comprenne que les mots sont en vue de la réalité. Et que la foi, ce qui m'intéresse en tant que croyant, c'est la réalité. Alors, je me sers des mots, c'est ce que nous allons voir. Dieu s'est servi des mots. Alors, ça fait comprendre que le privilège du croyant, c'est de se servir d'un langage que l'Église a gardé pour lui. Mais si l'Église n'était pas là, qu'est-ce qui me donnerait la parole de Dieu? Je ne saurais pas. J'aurais des savants qui me diraient, c'est là, la seule traduction légitime, c'est celle-là. Alors que non, l'Église est là pour me dire... Il est gardienne. Évidemment, c'est un mystère de foi, ça je suis d'accord. Mais c'est un mystère de foi qui me permet de comprendre que l'Église garde, non pas du tout comme un coffre-fort garde, mais comme la bonne terre. Alors on parle tout le mystère de la tradition. Comme la bonne terre. C'est tellement merveilleux que Jésus ait donné cette parabole de la bonne terre. On peut garder comme un coffre-fort garde. Quand on a un tableau de très grande valeur et qu'on ne regarde que la valeur du tableau et non pas le tableau lui-même, on le met dans un coffre-fort. J'avais un ami en Suisse qui avait un très beau tableau dont il me parlait. Je voulais absolument le voir. Je croyais qu'il l'avait chez lui. J'avais un peu de temps, je trouvais un peu sa bonne. Elle me dit, ah mais non, il est à la banque. Alors je dis, Marc, quel intérêt d'avoir ce tableau? Ben, je le vendrai quand les prix sont suffisamment élevés pour le vendre à ce moment-là. Puis ça ne sert à rien. Vous perdez le sens de l'art. Et c'est l'économie qui passe avant. Et en faisant ça plusieurs fois, au bout d'un certain temps, je deviendrai comme ça. Vous voyez? Quelquefois, les philosophes sont des coffres-forts des mots. Ils ont vivé là-dessus. Ils croient que le mot, c'est un absolu. Mais non, le mot n'est pas un absolu. Le langage n'est pas un absolu. Il est très important, il est capital, mais il n'est pas un absolu. L'absolu, c'est la réalité que je touche. C'est l'âme humaine et Dieu. Alors, nous allons toucher maintenant, on reste en présence. Cette question était posée avant, c'était très bien. Oui. Qu'est-ce qu'il y a ?
À bien voir. Le théologien, parce que ça c'est vrai, le contemplatif, dans sa seule contemplation, pour rejoindre tout de suite l'auteur de la parole, et le problème se pose peut-être moins. Mais le théologien qui doit expliciter.
Et le théologien n'est pas contemplatif.
Si, si, mais le fait d'expliciter demande le fait de.
Ah, mais c'est ce qu'on va voir. Attention, je réponds à une question.
Oui, non, mais c'est pour bien comprendre la place justement de l'auteur. Et pour un exemple peut-être qui nous a touché de près, le mot vérité par exemple.
Oui.
Si je suis, par exemple, une explicitation de Thomas d'Aquin quand Jésus dit je suis la vérité. Étant donné que la vérité est une adéquation, il va interpréter en disant Jésus est la parfaite adéquation du Père, donc il peut dire je suis la vérité. Mais si on regarde une autre perspective.
Qu'est-ce qui a dit ça ? Qu'est-ce qui a dit que Jésus était la parfaite adéquation du Père ? J'ai vu personne dire ça, moi.
Si dans la question de Dieu et vérité, par exemple,
oui.
Il prend l'exemple de je suis la vérité,
oui.
Et il dit qu'il y a. Étant donné qu'il y a identité.
Ben oui, identité, c'est plus l'adéquation.
Oui, mais il parle de la notion de vérité, adéquation rei et intellectus.
Oui.
De sorte que je peux l'appliquer analogiquement à Dieu, oui. Sans faire violence à mon langage.
Oui, mais attention, quand je dis analogiquement, je ne regarde plus que l'identité.
Oui, tout à fait.
Bon.
Mais ce que je veux dire,
donc, c'est que l'adéquation.
C'est que je pars, il y a analogie par rapport à mon langage, malgré tout.
De quel sens ?
Au sens où ben, cette adéquation, elle est parfaite, puisque...
C'est plus adéquation, c'est identité. C'est le propre de l'analogie, ça. L'analogie essaie de comprendre une ratio qui s'exerce sur des modalités différentes. Fini et infini, quand il s'agit de la théologie. Et quand je suis dans l'infini, je ne suis plus dans le fini. Et je ne peux que contempler. Tandis que là, il faut garder la modalité du fini dans l'infini. Alors vous dites, c'est pas vrai. C'est-à-dire, continuez votre raisonnement.
Mais c'était pas tellement si vous prenez à titre d'exemple.
Oui, mais dites à titre d'exemple. Mais c'est intéressant.
C'est parce que si je regarde, par exemple, à ce moment-là, j'ai cette perspective où, bah, jusqu'à présent, moi, je croyais qu'il y avait quand même, malgré tout, mon langage... m'aider à voir qu'il n'y avait pas de rupture entre mon langage et ce que...
Il y a une rupture. Je passe du fini à l'infini. Le propre de l'analogie, c'est simpliciter diversant. Donc c'est divers de manière absolue. Allô, allô. Ça, c'est Suarez. Je l'attendais là.
Oui. Pourquoi avoir... Je connais un peu le frère Thomas, on a discuté là-dessus. La question provient du fait que le père de la poterie, qui nous a fait des cours sur la semaine dernière, il a fait une grande thèse avec de gros volumes qu'on a voulu sur la vérité dans Saint-Jean. Et alors, il nous a dit, entre autres choses, que la vérité chez Saint-Jean, c'est tout à fait différent de la vérité des philosophes.
C'est tout à fait vrai, on est tous d'accord.
Oui, mais alors justement, il n'a pas précisé quelle était justement la
différence.
La différence.
Voilà, tout à fait.
Et alors, je crois que c'est bien ça la question, non ?
Oui, parce qu'il y aurait deux façons de procéder. Je peux voir que entre mon langage philosophique et le...
Et la
parole de Dieu, il y a une analogie. Et puis voir simplement que veut dire vérité dans le langage de Saint-Jean. Et à ce moment-là, si je regarde plus que ça, ultimement, j'ai des interprétations différentes du même texte.
Oui.
Et ce que j'ai du mal à voir, c'est le théologien, il a un langage humain, il a une recherche sur le vocabulaire de Saint-Jean, et en tant que contemplatif, il voit tout de suite, il rejoint la réalité immédiatement.
Oui.
Comment ça s'ordonne tout ça ?
Ce que je veux dire, ça, nous essayons de voir comment la philosophie... Sommes partis de là, ne dévions pas. Sommes partis de cela. Comment la philosophie peut-elle aider le croyant ? Comment le croyant peut se servir de la philosophie ? C'est ça le point de départ. Autrement, il n'y a pas de théologie. qu'en voyant la réalité. S'il reste au niveau du langage, il n'y a pas de théologie. Et donc, toujours le théologien restera en face du mystère de la réalité. Il se sert d'un langage. Il sait que ce langage est relatif. Et saint Thomas le sait. C'est pour ça que je suis toujours saint Thomas. Quand il n'y a pas de discussion au niveau du langage, c'est ce qu'il répondrait. Il répondrait, écoutez, est-ce que nous atteignons la même réalité? Saint Thomas respecterait l'étude exégétique à l'intérieur de saint Jean pour voir comment saint Jean, lui, parle de la vérité. Vous respectez ça? C'est une étude exégétique de saint Jean. Moi, je respecte tout à fait ça. Et je vois que saint Jean a une signification particulière quand il parle de la vérité. Ça m'intéresse beaucoup. Parce que quand je vois un mot saint Jean, le mot vérité dans saint Jean, je me dis, tiens, c'est ça, c'est très intéressant. Mais je ferai la théologie de la vérité. Ce n'est plus l'exégèse de saint Jean. C'est autre chose.
Alors voilà, ma question, c'est comment mon intérêt pour cette exégèse de saint Jean, est-ce que je vais dire ces deux choses différentes, ma théologie et ça, ou est-ce que je peux l'intégrer?
Mais non, c'est deux choses différentes. Je ne l'intégrerai jamais. Il y a une diversité des connaissances. Il y a une diversité des connaissances. Je ne peux pas faire que les mathématiques soient la philosophie. Je ne peux pas faire que les sciences exégétiques soient la théologie.
Oui, mais malgré tout... Non, mais je veux dire, l'exégète, lui, entend bien quand même trouver l'intelligibilité de ce que nous dit Jésus quand il nous dit « Je suis la vérité ».
Mais à partir de saint Jean, c'est une autre intelligibilité que celle de la théologie. Ce n'est pas la même intelligibilité. La science exégétique existe. Est-ce qu'elle est théologie? Est-ce que l'exégèse remplace la théologie? C'est la question. L'exégèse doit, moi personnellement, je suis d'accord avec vous qu'il y a une diversité et il y a une certaine unité analogique dans tous les savoirs, les degrés du savoir. C'est pas la même science.
Mais c'est quand même, parce que si je dis c'est deux registres différents,
mais oui,
le théologien peut très bien dire j'ai pas besoin de l'exégète.
Mais non, il ne dira pas ça, il ne dira pas qu'il n'a pas besoin. S'il est intelligent, il ne dit pas ça.
Non, il dira, c'est très intéressant, mais de même que moi, je peux dire en tant que comme théologien, on peut dire, j'ai pas besoin du mathématicien. Ce que vous disiez, c'est...
Oui.
Prenez cet exemple.
Oui, je prends l'exemple, c'est sûr. Et d'autre part, si je suis vraiment dans la sagesse, j'en ai besoin. Parce que j'ai besoin de comprendre la culture d'aujourd'hui. La sagesse, la théologie comme sagesse en a besoin. Je suis d'accord dans un raisonnement de théologie scientifique, je peux très bien dire, j'en ai pas besoin. Mon raisonnement de théologie scientifique tient. Les raisonnements de saint Thomas tiennent, même si l'exégèse a apporté certaines choses. Mais la sagesse a un regard sur tous les différents degrés de connaissance. Et je dois pouvoir les... Donc c'est un regard de sagesse qui ordonne. Mais ce n'est pas le même degré de connaissance. Vous voyez, le père de la poterie, puisqu'il s'agit de lui, quelle philosophie prend-il quand il fait son exégèse? C'est là où j'attaquerai. Vous voyez? Bon, et là je lui dirai, votre philosophie blondélienne, votre philosophie blondélienne, je la connais. Eh bien, c'est de la vasilienne. Ça ne tient pas la route. On va discuter d'abord au niveau philosophique si Blondel regarde la réalité ou s'il est dans un ontologisme. Blondel, c'est un ontologisme parfait. Or, je sais que quand je me sers d'un ontologisme, je diminue ma foi. Blondel n'a pas de philosophie première. C'est pas ce que c'est. Il y a l'action. Oui. Et la pensée. Ça va pas au-dessus. Je suis tout à fait d'accord que l'action et la pensée, c'est très important. C'est pas la connaissance de ce qui est. On reste dans l'intentionnalité. Et il fait de cette intentionnalité la réalité. Il suffit de lire une page de Blondel. Parce que vraiment, vous en avez lu un peu, vous. Quoi ? Vous vous sentez à l'aise ? C'est l'ontologisme pur. C'est-à-dire que l'intentionnalité devient la réalité. Bon, alors, dans la mesure où un exégète se sert d'une pensée philosophique, je ne dis pas, je crois qu'il ne s'en sert pas en réalité. Il laisse Blondel de côté. Mais alors à ce moment-là, il est exégète. Est-ce que l'exégète accepte qu'il y ait une théologie ? Moi, j'ai discuté très longuement tous ces problèmes avec le père Feuillet. Alors évidemment, le père Feuillet, c'est-à-dire, il accepte tout à fait qu'il y ait une théologie. Il accepte que l'exégète est au service de la théologie et que le théologien tient compte de ce que dit l'exégète dans un domaine où il y a quelque chose d'important. Et, vous voyez, je crois qu'il faut maintenir la diversité des connaissances. Et si on n'a pas la diversité des connaissances, on ne peut plus. Alors, je suis d'accord, il y en aura qui seront plus ou moins sensibles avec cette diversité. Et donc, qui verront plus l'apport, d'autres moins. Tout dépend du degré. Vous voyez, comme je disais tout à l'heure, la philosophie première, dans la mesure où la philosophie première. Vous savez, c'est rude, la philosophie première. Comme. Et saint Thomas a cette espèce de privilège étonnant. D'avoir cette rectitude extraordinaire qui fait que l'exégèse moderne me permettra d'apporter quelque chose, c'est sûr. Et je pourrais, je crois que je ne rectifierai pas grand-chose en Saint-Thomas. Certaines choses qu'on peut rectifier, ça je suis sûr. Exactement comme qu'on connaît bien Aristote, on rectifie certaines choses en Saint-Thomas. Vous voyez, quand il fait apport de la physique, on peut rectifier. Mais on rectifie, on ne touche pas à sa théologie comme telle. Vous voyez ? Les conclusions, c'est évident. Il y a des conclusions qu'on peut. Toutes les conclusions de la recherche sur la question de l'embryon et de l'âme. Vous voyez ? Bon, il se sert d'une philosophie sur laquelle on peut discuter. Et alors voilà que la précision vient. Mais je crois qu'on doit respecter la diversité de l'exégèse et de la théologie. L'exégèse se sert de science qui ne soit pas la philosophie. Oui. Alors que l'exégète soit en même temps théologien, bravo. Mais il y a des exégètes qui ne sont pas des théologiens. Alors opposer, vous voyez, opposer ce que saint Thomas dit comme vérité à ce que lui. Tu m'écoutes. Non, je vous en supplie, n'opposez pas. Dites que, en étudiant saint Jean, vous voyez, d'après tout le contexte de saint Jean, vous voyez, voilà ce que saint Jean entend par vérité. Très bien, ça m'intéresse. C'est sûrement pas en opposition avec saint Thomas. Sûrement pas. J'en suis sûr. J'aimerais voir l'opposition qu'il donne. Je l'ai vu parce que quand il y a eu l'année dernière un séminaire sur la vérité, justement, alors j'avais l'antenne avec mon cher père, Lazare, qui venait tout le temps, et on bavardait là-dessus. Ça m'intéressait, parce que ça m'intéresse beaucoup, ces études-là. Mais ne contaminons pas le regard philosophique, théologique, de théologie scientifique. Puis ça, c'est deux choses différentes pour moi. Vous voyez, au fond, c'est le lien constant entre le conditionnement et l'aspect de la vérité et de la substance de la vérité. Je crois. Constamment. En respectant l'analogie. Mais je dis, vous voyez, j'ai toujours très peur que l'analogie de saint Thomas a été tellement contaminé par Suarez. J'aime beaucoup les pères jésuites, mais quand les pères jésuites lisent saint Thomas, ils le lisent toujours à travers Suarez. pour ça qu'ils sont si gênés du reste. Parce qu'ils sont attachés par le cœur à saint Thomas, parce que saint Ignace a demandé ça. Et ils ne voient pas le lien. J'en connais plusieurs avec lesquels on peut parler. Et on leur dit, écoutez, attention, vous êtes suarésien, vous n'êtes pas thomiste. Qu'est-ce que dit Suarez ? Voulez-vous ? Il y a des choses élémentaires qu'il faut voir tout de suite. N'est-ce pas ? L'analogie chez saint Thomas, c'est allô, allô. Donc, divers, divers. Et quelque chose de commun. L'analogie chez Suarez, c'est l'analogie artistique. C'est la comparaison. Et donc, on voit d'abord la similitude. Et pour saint Thomas, c'est métaphorique. Alors, c'est vite fait hein, de regarder ce que c'est que la métaphysique. Je suis Suarez. Je ne vais pas le